Bonjour, vendredi 26 juillet, c'est Aime l'été, ici Chantal Lavoie, dernière journée de la semaine, une journée qui sera marquée par la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et cela dit, en ce qui nous concerne, une dernière émission qui ne manquera pas d'intérêt, on passe l'heure avec une invitée qui n'a pas froid aux yeux et qui pendant des années nous a proposé par ses livres et ses émissions des idées de recettes à profusion. Cela dit, un peu de nostalgie, les fêtes foraines ne sont pas disparues du paysage urbain, elles sont bien présentes autour de nous pour le plus grand bonheur des tout-petits, et un athlète tétraplégique qui, en tant que courtier immobilier, vend des maisons adaptées. Alors voilà tout un menu. Au cours de la prochaine heure, je vous invite à être des nôtres à Aime l'été. Aujourd'hui, nous allons en effet parler de maisons, de chalets ou de logements adaptés avec quelqu'un qui s'y connaît. Il est lui-même en situation de handicap. Comme courtier immobilier, Maxime Drolet-Gauthier s'est donné comme mission de dénicher des endroits accessibles pour une clientèle aux besoins particuliers. Également, un sujet tout à fait estival, les fêtes foraines, manèges et jeux d'adresse au rendez-vous, mais aussi un peu de barbe à papa avec ça. On accueille Véronique Vallée de la compagnie Beauce Carnaval. On en saura davantage sur la vie de forain. Mais nous allons passer l'heure qui suit en compagnie d'une personnalité des plus charmantes qui a plein de choses à raconter, l'animatrice bien connue Claudine Desrochers, la nouvelle reine de la jungle. Bienvenue à Aime l'été!
Le ou la grande gagnante de la deuxième édition de Sortez-moi d'ici est... Claudine Desrochers! Bravo!
C'est pas vrai!
Oui, t'as remporté!
Oh my God! C'est surréaliste! Oh my God!
Claudine, qu'est-ce que ça te fait de gagner, sortez-moi d'ici, écoute, 50 000 $
C'est surréaliste, j'en reviens pas! Je vous le dis, il y a un soir, je voulais quitter. C'était trop d'émotions pour moi. Puis j'ai pas été éliminée ce soir-là. Puis le lendemain matin, je me suis dit, garde, t'es encore là, c'est pour une raison. Motive-toi, raccroche-toi, t'es capable, va jusqu'au bout, donne-toi. Mais je pensais jamais, j'en reviens juste pas.
Hey. On est émue. Elle est émue. Oui, elle est en studio, Claudine Desrochers. Et oui, Nathalie, c'est quelque chose de l'avoir avec nous comme ça.
Oui.
Et oui, alors, ça te rappelle des souvenirs quand même. Et puis là, évidemment, nous, comme spectateurs, ce qu'on réalise pas, c'est qu'évidemment, l'enregistrement a été fait il y a quand même plus longtemps. Là.
Oui.
Alors, ça veut dire que tu as tenu le secret pendant tout ce temps-là.
Oui, pendant 11 mois. C'est quand même incroyable. Oh, c'est long, c'est interminable, c'est une éternité. Ça n'a pas de sens. C'était vraiment, vraiment difficile. Là. Tu ne peux pas en parler à personne. Bon, ma famille proche le savait, mon conjoint le savait, ma fille le savait, mais j'étais tellement stressée.
Tout.
Je leur disais, là, vous n'avez pas le droit, il ne faut pas le dire. Tu sais, parce que l'humain, c'est l'humain. Hein?
Ah oui.
Genre, je te le dis, mais dis-le pas à personne. Genre, bon, tu comprends? Puis là, ça fait la chaîne.
Ouais.
Non, mais ils étaient vraiment avertis parce qu'on avait signé une entente de confidentialité. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de sous en jeu, les commentaires et tout ça. Il ne fallait pas que le dévoilement se sache...
Avant que l'émission passe.
Effectivement, sinon l'intérêt, on aurait perdu l'intérêt de plusieurs... Donc, ça a été long. Avant...
Alors ça, vraiment, c'est une... Ça, on n'y pense pas, mais effectivement, j'ai réalisé, ah ben c'est vrai, l'enregistrement avait été fait, donc ça a été diffusé. Puis là, ben, il fallait garder le secret pendant tout ce temps-là. C'est incroyable quand même. Alors oui, t'es la nouvelle reine de la jungle, mais c'était tellement agréable de te revoir au grand écran. Des fois, bon, ben, y a les projets, bien sûr, on fait plein de trucs, mais des fois, c'est moins visible pour la population en général. Des fois, on était comme un petit peu plus en retrait. Ce qu'on fait n'est pas toujours à l'avant-plan, mais quand même. Alors, c'était un plaisir et je pense que vraiment, je pense qu'on va te revoir. D'ailleurs, on te voit cet été à Soupy Salé. Alors, tu fais des chroniques. C'est vraiment vraiment chouette. Alors, c'est un beau... Et d'ailleurs, je disais en début d'émission, dans mon ouverture, oui, que tu nous as fait découvrir des recettes à profusion parce que finalement, tu es encore régulièrement sur ma table, sur mon comptoir de cuisine. Et
oui,
c'est sérieux.
Dans la cuisine de bien des gens. Et oui. Même la plupart des gens ont plus de magazines de recettes que moi-même. Moi qui ai déménagé souvent, donc j'en laisse aller quelques-uns à gauche, à droite. Finalement, il m'en reste peut-être une dizaine sur les centaines de magazines de recettes qui existent en 13 ans de quotidienne. Il y en a eu.
Mais c'est fou parce qu'on a tout est disponible sur Internet, mais on a besoin du papier. Moi, j'ai besoin, j'en ai encore moi aussi.
Mais
de
mes recettes ne se trouvent plus nécessairement sur Internet, je crois. Non, je pense que c'est difficile.
Dépend des droits et tout ça, de ce qui a été
effectivement,
négocié.
C'est avec TVA et tout, là, mais non, conservez vos magazines si vous aimez les recettes.
Mais je trouve ça beau, c'est le fun de conserver ça.
Surtout que, tu sais, il y a des recettes qu'on fait plus souvent. Puis là, ben, tu ouvres ton livre, puis là, ben, évidemment, la recette, tu sais, c'est la page où c'est tout taché, là, c'est tout.
C'est ça, exactement. Mais oui, on en a peut-être une ou deux par cahier.
Je veux juste revenir sur Sortez-moi d'ici.
Oui.
Comment tu as fait pour choisir, parce que tu pourrais choisir 2000 causes, tu as choisi de donner les sous à une cause en particulier.
Oui, c'est drôle parce que j'étais en recherche d'une fondation, parce que c'est quand même une responsabilité. Là. Tu dis à qui je vais donner 50 000 $, ça peut changer à quelque part la ça peut court-circuiter ou ça peut aider une fondation vraiment à se transformer. Ou carrément à survivre. Ouais. Donc là, j'étais là, mon Dieu, OK, moi, les enfants, oui, c'est important. Les animaux, c'est important aussi. Oh là là, je savais pas quel cause choisir. Et mon conjoint était invité à une soirée par COGIR, en tout cas une fondation COGIR, qui, eux, donnent des sous à plusieurs petites fondations. Mm-hmm. Et les directeurs, directrices de ces petites fondations-là, dans le fond, ce sont des grandes causes, mais des petites fondations, vous comprenez ce que je veux dire, ils étaient présents ce soir-là pour faire une présentation et un petit peu nous dire qu'est-ce qu'ils font, tu sais, quelle est leur cause, etc. Et là, je vois arriver ce jeune homme-là, je le regarde, je me dis, mon Dieu, il est dans la vingtaine, il est vraiment jeune. Il commence à parler avec un dynamisme puis une passion et tout ça. Et c'est son histoire qui m'a accrochée, mais vous allez voir le lien aussi. C'est que à l'âge de 15 ans, lui voulait démarrer cette fondation-là à deux pas de la réussite. Mm-hmm. C'est à Repentigny, dans la région de la Nausière. Parce qu'il s'est dit, ben moi, je viens d'une famille quand même privilégiée, je joue au tennis, je peux faire du ski alpin, j'ai des équipements, je peux faire ce que je veux. À l'école, j'ai toujours des beaux vêtements. J'ai besoin de tuteurs en mathématiques, j'en ai... Puis, il regardait certains de ses amis qui n'avaient pas cette chance-là. Puis, il s'est dit, oui, OK, l'école est peut-être gratuite, l'école publique, mais ce n'est pas tout le monde qui a quand même les mêmes chances égales. Puis même, il y a l'école privée aussi, là, tu sais, c'est pas si égal que ça.
Hein, le matériel scolaire, c'est très, très cher.
Effectivement. Alors, à l'âge de 15 ans, il s'est dit, moi, je vais démarrer une fondation pour aider les jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. S'en va à la banque. La banque lui dit... « Jeune homme, vous êtes trop jeune. Revenez à l'âge de 18 ans. » Et ils se sont dit, probablement, on ne le verra plus jamais. À 18 ans, il retourne à la banque. « Ça y est, j'ai 18 ans. Moi, là, je veux partir de ma fondation. » Alors, OK, d'accord. Donc, c'est comme ça, avec 5 ou 6 de ses amis. Et je pense qu'il y en a encore 2-3 qui sont toujours là. Mm-hmm. Il est mi-vingtaine seulement. Puis ça fait déjà plusieurs années que la fondation existe.
Hey là là.
Et donc, à deux pas de la réussite, je m'en vais là. Je m'en vais leur donner un petit coup de main le 13 août. Mm-hmm. Parce qu'on va monter les sacs d'école avec le matériel scolaire. Et puis, voilà. Donc, j'étais tellement fière de donner le 50 000 $.
C'est ça, parce que chacun
je viens
avait
de la région de la Nausière aussi.
Ouais. Les autres participants avaient aussi des causes. Alors,
ben oui,
là, évidemment,
c'était toutes des bonnes causes.
C'est ça.
Toutes les causes sont bonnes.
Je veux juste avoir le nom du jeune homme.
Il s'appelle Alexandre.
Alexandre.
Oui, okay, Alexandre Gagné.
Alexandre Gagné,
en fait,
parfait.
On dit Alex Gagné.
D'accord.
Donc, c'est vraiment toute une...
Inspirant.
À la fois, inspirant. Ouais, et puis un exploit pour toi, parce qu'évidemment, c'est sûr que ça a été un défi, puis ça a été une expérience humaine incroyable. Et d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est ça qu'on retire quand on participe, hein.
Ouais. Bien, premièrement, quand on a cette offre-là, moi, j'avais très peur. Parce qu'on parle de fête foraine, j'ai de la difficulté à aller dans un manège, tellement j'ai peur. OK, moi, là, à la ronde, le monde de ribambelle qui s'adresse aux jeunes enfants du primaire,
oui.
J'ai peur.
Ah bon?
Donc, ça vous donne une idée. J'ai peur des araignées. Je me croyais extrêmement pissou, entre guillemets. Et là, je me suis dit, my God, si je refuse, il me semble que dans ma tête, je vais toujours me dire, j'aurais donc dû y aller.
Ouais.
Si j'accepte, je vais peut-être avoir l'air d'une folle. Après deux jours, je vais vouloir quitter en courant. Ou quel bout ils vont garder du montage de l'émission? Est-ce que je vais avoir l'air d'une hystérique?
Ça, on le sait jamais.
On n'a pas de contrôle sur rien.
Ouais.
Alors, bien, j'ai sauté, j'ai plongé, j'ai pris le risque. Et puis, j'y allais un jour à la fois. Mais sincèrement, je ne savais pas que j'allais être capable de prendre deux tarentules dans mes mains. Je ne savais pas que j'allais monter une tour de 30 mètres.
Manger tout... des trucs un peu dégueux.
Vraiment dégueux. Que j'allais être à deux pouces de gros serpent lors du défi final. Bon, toutes ces choses-là, tant qu'on ne les vit pas, on ne le sait pas. Si on est capable.
Tout à fait. Et c'est une expérience qui se produit parfois une fois
ben,
dans
une fois dans ta vie. C'est coché là sur ma liste de ma liste to do là. Ouais. Je penserais pas retourner puis refaire ce genre d'expérience là. Fait que dans le fond, je le savais pas. Et puis je me suis laissée aller un jour à la fois, sans me mettre de pression, sans me dire hey là faut vraiment que tu ailles jusqu'à la fin ou au lieu de visualiser que je gagne et tout ça, là, moi, là, j'y allais un jour à la fois.
Mais c'était une belle collaboration, toute la gang ensemble.
Oui,
les
oui.
gens avec qui tu étais, c'était merveilleux. Là.
Ah oui, puis on était tous... On était, oui, ensemble, mais en même temps, beaucoup dans nos têtes aussi, chacun, je crois. Parce qu'on avait tous une façon individuelle de vivre cette aventure-là, de vivre, de dormir dans la jungle, de pas beaucoup manger, de pas beaucoup dormir, de se faire piquer parce qu'il y a des insectes partout. Tout ça, on avait chacun notre façon individuelle de le gérer.
De le gérer, c'est
Mais en groupe, on s'entendait bien. C'est sûr que des fois, là, à un moment donné, ils montraient peut-être moins ça. Là, mais
ouais.
D'un certain côté, on pouvait être impatient un petit peu. Mais ça se passe. Somme toute, là, on était un beau groupe.
Exactement. Puis, en fait, aussi, ce qui est important pour le public, c'est de savoir que tout est réel. C'est-à-dire que, évidemment, vous ne faites pas semblant. Là.
C'est non.
C'est pas un jeu qui, là, que vous allez coucher dans la roulotte puis qu'on donne l'impression d'être dans...
ou qu'on a des passes droits, pas ou qu'on a des collations.
C'est vraiment tel que c'est.
Oui, je me fais souvent poser la question par le public, est-ce que c'est vrai que vous mangez que ça? Et oui, c'est vraiment ça. Puis même, je vous dirais que les productions déferlantes travaillent très, très fort à ce que ce soit ça, ce qu'on voit à la télé, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit truqué, quoi que ce soit. Donc, on dort vraiment dans la jungle, on mange juste du gruau, du riz, des fèves, et ce qu'on voit comme...
Et pas beaucoup d'interactions avec l'équipe de production
le
aussi.
Le moins possible.
Non, pratiquement pas. Hein,
le moins possible. Les caméramans n'ont pas le droit de nous parler. Ils vont silencieusement dans leur petite cache, là, dans la végétation, et ils ne nous parlent pas. Ils n'ont pas le droit, ils ont ordre pour qu'on se sente le plus possible. Sinon, évidemment, il y a 22 caméras sur le site, on les voit un petit peu sur les troncs d'arbres, mais si en plus ils nous parlaient, là, ça deviendrait... je veux dire, on sentirait trop que les caméras sont là puis que c'est une émission de télé. Même si on le savait, mais on pouvait quand même l'oublier à un moment donné. Puis c'était ça un petit peu l'idée, là, c'est de nous voir plus dans notre cadre naturel le plus possible.
C'est assez réussi. C'est vraiment très...
C'est un travail de feu.
Ouais.
C'est pas croyable d'arriver comme deux mois d'avance pour l'équipe technique, construire le camp qui était vraiment dans une savane dans le fond de la jungle. Le bassin d'eau qu'on voyait, ça a vraiment été du béton qui a été coulé là parce qu'il n'y avait pas de source d'eau. Mais finalement, c'était pas intéressant.
Non.
Il y avait beaucoup de chlore et malgré tout, les bébites y allaient. En tout cas, non, c'était pas très intéressant.
Alors, tout un défi et puis c'est ça, ben, c'est une expérience humaine.
Unique.
Unique, enrichissante, c'est sûr. Alors, évidemment, j'imagine que peut-être que pendant ce temps-là, il y a des idées qui ont germé. Alors, c'est sûr qu'on va te revoir. Et cet été, toi, ton rôle, tu faisais une chronique à sucré salé. Alors,
oui.
Ça aussi, tu
ça
t'es
continue.
Bien... Ça continue. Tu t'es bien amusé là-dedans.
Ah oui, je m'amuse. Ouais. Il m'en reste quelques-unes à faire, là. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir avec l'équipe avec qui je travaille. Caméraman, preneur de son. On est vraiment une petite équipe, hein. On est chacun les chroniqueurs individuels avec notre petite équipe. Là, on se voit pas nécessairement. On se rend sur les lieux de tournage. Tout se passe là. Ce que j'aime, c'est le côté un peu instantané. Tu sais, en deux heures, tout est tourné. On a déjà un scénario de base, mais on peut le jouer T'sais, improviser aussi sur le moment. Puis les invités sont toujours très, très ouverts là, à tout ça. C'est le fun.
Tu sais, quand tu dis que tu as du plaisir, toi, Claudine, tu as du plaisir sur un plateau.
Oui!
C'est vrai. Puis pour te recevoir, on fouille, on va chercher de l'information. Je suis retombée sur tous les bloopers quand tu as fait ton émission. Mais tu rigoles tout le temps. C'est facile de travailler avec toi.
Oui.
C'est ce que j'ai... On n'a pas travaillé ensemble, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que les gens ont beaucoup de facilité à travailler avec toi.
Ah, bien, c'est gentil que tu me dises ça. Parce qu'effectivement...
C'est du fun,
toi. Bien, ça fait partie de... Je veux dire, on n'est pas juste devant la caméra ou... Bon, à la radio, je veux dire, l'équipe technique, tous les gens qui nous entourent, hein?
Ah, Mathieu?
Donc, bon, Mathieu est là, là. Alors, c'est important d'avoir... Si on a du plaisir avant d'être devant la caméra, c'est sûr que ça transparaît,
ça exactement. Se ressent. Et c'est tellement plus facile aussi quand
on
a du plaisir, hein? C'est merveilleux. Oui. Et parlant de plaisir, est-ce que toi, t'as été souvent jeune dans les fêtes foraines?
Oui, quand même, je vous dirais, j'ai plus ou moins des bonnes expériences, mais on recule dans les années 70. Là. Donc, il y avait une fête foraine à Berthierville où on allait, où je suis allée, puis là, ça m'avait bien impressionnée. Puis les enfants, les adolescents, les préados, écoute, c'est l'endroit parfait où tu peux commencer à croiser un petit peu.
Oui, t'as raison.
Les gars, les filles, ça se surveille, puis là, hein, c'est quelque chose. Donc, ça c'était bien le fun.
On tombe en amour avec les gars de manège. Ça fait partie d'eux, hein? Non, mais je pense. En tout cas,
ça ne m'est jamais arrivé.
Moi, dans mon cas, faut dire que j'étais très jeune, là, tu sais. Ouais. Mais je n'étais pas adolescente à ce moment-là parce qu'à Saint-Gabriel, je ne sais pas pourquoi, il y en a eu peut-être un an ou deux de fêtes foraines. C'était comme des groupes ambulants là, qui se déplaçaient.
Voilà, c'est
de
ça. Ce n'est pas des parcs d'attractions. Ce sont des gens qui se déplacent, effectivement. Alors, c'est très différent des parcs d'attractions. Évidemment, on a tous connu, ben, c'est-à-dire pas tous, mais moi, j'ai connu le parc Belmont.
Moi aussi.
Ben, d'accord, mais toi, Claudine, peut-être pas.
Ben, en fait, j'étais trop loin.
Mais... loin
oui, puis mon père, c'est un chasseur, un pêcheur. Lui, à la Montréal. Non, ça se faisait
ça
pas
se
à la
faisait
Montréal.
Pas, exactement.
Ah, non. Fait que j'ai pas pu connaître ça, malheureusement.
Alors, et tu sais quoi? On accueille quelqu'un qui s'y connaît bien, en fait, foraine. En fait, c'est une entreprise familiale, Beauce Carnaval. On va accueillir à l'instant, elle est à l'autre bout du fil, Véronique Vallée. Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, c'est vraiment, là, ça nous rappelle, je sens l'odeur de la barbe à papa, là, je le sens d'ici. Vous êtes où présentement? Parce que vous vous déplacez constamment, vous avez toute une programmation. Vous vous êtes promené à travers le Québec déjà, pas mal, cet été.
Oui, présentement, on est à l'exposition de Victoriaville et à l'exposition de Chicoutimi.
Ah, d'accord. Et puis, effectivement, ça commence, la saison, ça commence à peu près, quoi, fin avril?
Oui, fin avril jusqu'à la mi-septembre.
Alors, ça veut dire à peu près que vous en faites en moyenne combien par été?
Avec deux unités sur la route, on fait environ une quarantaine de villes.
Ah, hé, là là, c'est beaucoup, hein?
C'est du sport, parce que là, c'est vraiment une vie de nomade, en quelque sorte. Et parce que là, finalement, vous êtes là à peu près, quoi, combien de jours à chaque fois?
Normalement, ça varie entre 7 et 14 jours. Quand c'est des gros événements, on reste là... deux semaines, puis des plus petits événements, on reste là une semaine. On rouvre, par exemple, quand on va dans une cour de centre d'achat, on rouvre du jeudi au dimanche. Puis quand c'est des comme le festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, ça rouvre du vendredi au dimanche et ensuite du mardi au dimanche de l'autre semaine.
C'est ça. Ça peut être toutes sortes d'événements. Les municipalités aussi qui font appel à vous?
Oui.
J'ai une petite question. En fait, vous êtes combien dans l'équipe d'employés?
Par unité, on est environ 70, donc je vous dirais 140-150 là avec les concessionnaires.
Et là là, puis est-ce que vous dormez dans des campings à l'hôtel ou
dans des roulottes?
Dans des roulottes, oui. On a aussi des dortoirs, des roulottes. Ah. Ça dépend de chaque personne, c'est différent. Mais on dort sur place, à toutes les places où les manèges sont, nous on dort là.
C'est quand même encore plus de confort que ce que tu as vécu,
oui,
toi,
dans
la jungle.
Oui, c'est plus de confort que ce que j'ai vécu dans la jungle, en effet.
Oui, c'est ça, c'est sûr.
J'imagine l'aspect sécurité, c'est important, parce que moi, je dois vous dire, là, dans les années 70, c'était pas votre équipe, là. Hein? C'est sûr, ça, je suis sûr que vous êtes très sécuritaire. Moi, à l'époque, là, ça grinçait, là. On se demandait si le manège allait tenir debout pendant toute la journée, là.
Oui, bien, c'est sûr que dans les années 70, c'était différent. Il n'y avait pas les mêmes normes de sécurité. Là, maintenant, on a la RBQ qui nous inspecte. On a aussi des recommandations du fabricant. On fait des inspections quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Alors, c'est plus L'emphase est de mise là, sur la sécurité avant tout.
Absolument. Et c'est une entreprise familiale. C'est votre grand-père qui a parti cette belle aventure-là. Et puis, je pense que à l'époque, vous avez même accompagné votre grand-père dans des conventions. Et puis, vous étiez une testeuse de manège.
Vous avez fait des bonnes recettes.
Oui, si ça passait le test, il disait, ça y est, on prend ça, ça va être le bon choix. Si ma petite fille aime ça, c'est bon.
Oui, bien là, on allait dans les conventions, puis on visitait des parcs d'attractions. Puis là, ils nous envoyaient dans les manèges. Puis quand on voulait toujours le refaire, mes frères et moi, là, ils disaient à mon père,
ça va pogner.
Génération,
ça va marcher.
Hey, je pense qu'on achète ça. Les enfants aiment ça, ça va être bon, ça.
Donc, tu as passé ta vie là-dedans?
Oui, moi, j'ai
toute
grandi.
Ta vie? T'as grandi.
Je finissais l'école, je partais sur la route, ma mère venait nous chercher, puis on partait avec eux autres, puis on faisait la tournée au complet.
Hé, hey, là, j'imagine que toi, là, un petit travail 9 à 5 tranquille dans un bureau, là, ça marche pas, là. T'as faut que ça bouge.
Oui, c'est ça. C'est correct, l'hiver, pour se reposer, mais vivement l'été, là, qu'on recommence à vivre plus grandiosement, si on veut.
Oui, c'est ça. Puis, évidemment, il y a vos frères qui sont impliqués aussi dans cette entreprise-là. Donc, vous touchez à tout, au fond. Là. Juste déjà là, de choisir des fois des nouveaux manèges aussi. Il y en a de nouveaux, même cette année.
Oui. Cette année, on a le Storm qui arrive des Pays-Bas. Oh. C'est un manège qui est vraiment agréable. On l'a fait... Dans ce temps-là, il y avait juste mes frères et moi et ma belle-sœur, puis on a ri tout le long du tour de malaise. Ça a pris 3 ans de l'avoir. Maintenant, c'est plus difficile là depuis le COVID. On dirait que, il y a le dos large. Fait que
ouais.
Acheter un manège, ça prend du temps à recevoir, mais ça vaut la peine. Là. Je pense que les gens aiment ça. Aussitôt qu'on l'a sorti la première semaine, là, il y avait des grandes files d'attente, puis c'était beau à voir.
Bien, justement, puisque vous dites que c'était beau à voir, qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse avec toutes ces années de fêtes foraines? Qu'est-ce qui vous apporte encore de la joie?
C'est de génération en génération. Je pense que mon grand-père, mon père vous diraient la même réponse. C'est d'entendre les gens rire, les gens crier dans les manèges, sortir de là puis dire « Hey, il va le faire, c'est malade, c'est trippant ». Ça vaut tout l'or du monde.
C'est ça que vous disiez, oui, effectivement. J'ai vu que c'est ce qui vous motivait beaucoup, là, cette joie là, des enfants, notamment, et la joie des parents aussi. Forcément, c'est toute une ambiance. Et puis, comme on disait, vous avez grandi là-dedans. Est-ce qu'il y a, justement, les compagnies qui vendent des manèges, est-ce que c'est à travers le monde, là, je veux dire, quand même, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce que vous êtes pas mal les seuls au Québec à faire ça? Je sais qu'il y a peut-être une autre entreprise comme la vôtre, mais quand même, comment ça se passe concrètement?
On est 2 entreprises au Québec qui font ça. Depuis 2019, on est 2. Avant, on était 3. Là, on est 2, mais il y a beaucoup de marchés aussi. Il y a beaucoup de carnavals en Ontario. La compétition est plus féroce, ça, je vous dirais. Mais tout ça se fait toujours dans un beau respect, par exemple. Nous, on est très proche de carnaval en Ontario. On s'organise des événements sportifs l'hiver, puis les gens s'entraident aussi.
Il y a une belle collaboration, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu de la misère avec les douanes pour le nouveau manège, puis c'est quelqu'un d'Ontario qui a entendu dire qu'on avait de la misère. Ils nous ont appelés pour nous donner des trucs. Tu sais, malgré tout, la compétition, il y a quand même une belle entraide. Là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'entraide, là, mais généralement.
Alors, c'est toute une vie quand même, une vie nomade. Et puis, il y a, je pense, aussi les gens qui animent les jeux d'adresse. C'est très varié, là.
Oui, on a des gens qui travaillent dans les jeux d'adresse. On a des gens qui travaillent dans les restaurants de Barbe à Papa, Doré aux Fruits, de Poutine. Ensuite, on a l'équipe manège. On a aussi une équipe qui nous aide à faire les transports. Eux, ils partent le dimanche, ils viennent nous rejoindre sur place, ramassent un manège, puis ils l'amènent à l'autre ville. C'est quand même une grosse équipe.
Oui, c'est ça, parce que juste procéder au montage et au démontage, c'est toute une aventure, ça.
Oui, mais ça va quand même bien. On a des bons employés. On a, depuis quelques années, on a engagé des travailleurs étrangers. Puis c'est toujours les mêmes années après année qui reviennent. Okay. C'est pas des nouveaux, là. C'est toujours les mêmes. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis on a des bons gérants de terrain aussi qui veillent à ce que tout aille bien. Puis... nous, on est toujours sur place aussi, alors
J'imagine ça, ça que ça roule au quart de tour. Mais moi, je vous écoute, là, puis c'est sûr que je viens plus du monde de la télé, là, puis je vois plein d'images dans ma tête. Il me semble que ça ferait un beau documentaire, ça, de vous suivre.
Il y en a eu un, le documentaire. Il y a eu, avec les Denis Drolet, Monde dans le manège. C'était 10 épisodes qui nous suivaient. Ah. Ensuite, on a eu un documentaire à Canal D sur vraiment l'histoire, là, mon grand-père, ses enfants. Puis nous, on était un plus jeune, là, la relève éventuelle. Et tout.
Oh, wow!
Mais oui, c'est un bon sujet. Parce
c'est un
que
très
c'est
beau
pas,
sujet.
C'est plus que ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'organisations derrière ça. Puis tout ça reste quand même très familial. On s'occupe de tout, vraiment, juste nous, la famille Vallée. C'est nous qui s'occupons. De A à Z, là.
Ah, bien, c'est merveilleux. Puis, ça fait sortir les enfants aussi. Tu sais, on dit toujours que les jeunes, maintenant, regardent beaucoup leur écran, sont sur la tablette et tout ça. Là, enfin, on oublie la tablette et on fait jouer les jeunes enfants. On les amène en famille aussi, du temps de qualité en famille, là, où est-ce qu'on s'amuse?
Oui, bien, on crée des souvenirs.
Ah oui, des souvenirs.
C'est ça, créer des
moi,
vrais souvenirs.
Moi, les fêtes foraines, c'est ça. C'est des souvenirs oui. d'enfance pour moi. C'est, on y va avec les enfants, on mange la barbe à papa. C'est une tradition
bonheur,
d'été.
Tout à fait. Et puis, je pense aussi, vous vous êtes déplacé quand même, quand vous allez dans des régions comme Baie-Comeau, cette île, il y a toute la population, enfin, les jeunes Innus aussi qui se réjouissent. Là. Je pense que vous faites bien des heureux aussi quand vous allez dans ces endroits-là. C'est vraiment oui, très attendu, hein, votre passage.
Oui, ils ont toujours très hâte qu'on arrive. C'est tellement beau de les voir. Ils viennent avant qu'on arrive. Par exemple, je pense, j'ai l'image de cette île. Les camions arrivent dans le stationnement, puis là, on voit les enfants, puis ils essayent de grimper dans le manège pour voir c'est lequel. Puis là, ils sont là. Madame, c'est quoi ce manège-là? C'est quoi les autres? Puis ils sont vraiment excités, là. C'est beau à voir.
Alors, c'est ça. Donc, des gens qui sont prêts à vivre autrement, à partir à l'aventure pour l'été, mais ben, évidemment, quand c'est l'hiver, des fois, il y en a qui... j'ai lu qu'il y avait, par exemple, le cas d'une infirmière auxiliaire, des gens qui travaillent dans d'autres domaines complètement, et l'été, ben, c'est ce qu'ils font, finalement. Ils se retrouvent chez vous, là, à partir en tournée, comme ça. Alors, une quarantaine de villes que vous visitez à chaque été, c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup, Véronique Vallée, d'être venue nous en parler.
Merci à vous.
Et puis, ben, je vous souhaite évidemment un beau développement pour cette compagnie, alors qui est la compagnie de votre grand-père en quelque sorte, et vous vous êtes transmis ça de génération en génération. C'est merveilleux, c'est un beau projet, et peut-être que vos enfants vont suivre aussi.
Un bel été. Oui, mangez-vous encore de la barbe à papa?
Oh non, moi j'en mange pas.
Non, là vous êtes un peu tannée, j'imagine, ouais, depuis le temps. Alors, merci beaucoup, Véronique Vallée. Et nous, ben, on va s'arrêter.
Merci.
Au revoir. Et puis, on va s'arrêter le temps d'une pause, Claudine et Nathalie.
Oui.
D'accord. Et on revient tout de suite après.
Ah.
Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième moitié d'heure à Aime l'été, on est avec Claudine Desrochers qui passe l'heure avec nous. Alors, on va continuer à lui parler, bien sûr. On a Nathalie Barrette aussi en studio. Alors, on va parler avec notre autre invité, Maxime Drolet-Gauthier, qui va nous parler d'immobilier. En fait, là, on l'a reçu, je pense, il y a peut-être deux semaines. Là. Bonjour, Maxime.
Bonjour, ça va bien?
Mais très bien. Alors oui, on vous a reçu en tant qu'athlète. Finalement, vous êtes, on rappelle, vous êtes membre de l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. Enfin, bref, vous êtes. On a parlé de tout votre parcours, votre histoire. Là. Bien sûr, vous avez eu un accident de voiture qui vous a laissé tétraplégique. Mais à travers ça, vous avez toute une belle histoire. Ça a été évidemment difficile, on sait, au début. Mais après ça, vous êtes... rebâti dans les sports. Mais là, aujourd'hui, vous nous parlez d'immobilier et de maisons adaptées, finalement, parce que ça a été, là, c'est vraiment votre spécialité.
Oui, bien, dans le fond, ça, pour faire une histoire courte, j'ai un accident de voiture, ça, en 2013, comme j'ai dit, il y a deux semaines. Et dans le fond, c'est durant ma réadaptation, je trouvais qu'on était super bien encadré au centre de réadaptation où moi j'étais dans le temps. Mais je trouvais que par rapport au retour à domicile, donc tu sais, une fois que ben, t'es en fauteuil roulant, évidemment, il y a certaines facettes des fois du domicile qui doivent être modifiées. Puis à travers ça, tu sais, je trouvais que les ergothérapeutes t'accompagnaient pas vraiment, donc de trouver un logement vraiment accessible, de savoir un peu comment ça, ça fonctionne avec les subventions, selon ta situation, aussi de comprendre un peu selon les différents assureurs, ce à quoi tu as le droit, toutes les procédures, les démarches. C'est quand même complexe mon expérience personnelle. Puis aussi, justement, quand j'ai commencé à jouer au rugby par la suite, mais j'ai commencé à côtoyer beaucoup de monde en fauteuil roulant. Puis c'est quelque chose qui revenait souvent, qu'il n'y avait pas beaucoup de services au Québec ou d'accompagnement pour tout ce qui touche à l'immobilier accessible. Fait que j'avais commencé justement à refaire mes démarches dans le fond. Je suis revenu dans le fond vers l'équipe d'égothérapeutes du centre de réadaptation LIAS-GLM à Montréal. C'est comme proposer, comme poser des questions à savoir pourquoi ce genre de service n'était pas offert. Puis s'il y avait une manière qu'on pourrait travailler ensemble pour développer ce service-là. Fait que ça a commencé comme ça avec le centre de réadaptation sur LIAS-GLM à Montréal. Puis par la suite, j'ai commencé ça, à développer une plateforme web, puis aussi à réaliser qu'il y avait aussi, de la demande à l'extérieur, fait que c'est de structurer un peu ça pour pouvoir prendre en charge peu importe une personne qui a un handicap au Québec qui veut, par exemple, trouver un domicile ou vendre son domicile, adapter son domicile, de pouvoir l'accompagner à travers ça. Fait que c'est pour ça que j'ai développé mon entreprise, puis c'est ça qu'on fait là.
Alors donc, est-ce que, bon, d'abord, est-ce que ça se trouve facilement, des maisons, des logements adaptés? Est-ce que, par exemple, j'ai lu aussi que souvent, on personnalise également en fait, quand on adapte une maison, ça dépend toujours de notre handicap, bien sûr. Alors, c'est là que ça peut aussi faire la différence. Là. C'est pas nécessairement une maison ne va pas être accessible pour tout le monde, dépendamment du handicap.
Non, mais premièrement, tu sais, il faut comprendre que, tu sais, au Québec, des logements, des habitats qui sont classés comme accessibles, c'est environ 15 %. Quand on dit accessible, c'est souvent quelqu'un en fauteuil roulant. Fait que déjà, en partant, il y a beaucoup moins d'offres. Puis aussi, tu sais, je disais que la crise du logement, puis aussi, si on va dans le côté locatif, là, et, tu sais, la plupart des gens en situation d'handicap, ils ont un revenu qui est inférieur à la moyenne des gens qui n'ont pas d'handicap. Fait que concernant justement la crise de logement, le fait qu'il y a juste 15 % de ces logements-là qui sont accessibles, puis le fait justement que comme la plupart des gens en situation de handicap ils ont moins de revenus, ça fait que c'est vraiment difficile pour eux en ce moment d'en trouver un. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est que la plupart des propriétaires de tours à logement sont pas obligés d'accepter une adaptation à leur logement. Souvent, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que ces gens-là, ils pensent que d'adapter, par exemple, leur logement, ça va faire en sorte que par la suite, si ce locataire-là, il s'en va, mais ça va être difficile de pas le louer. Fait que c'est une autre chose aussi qui est à prendre en considération, qui en sorte que c'est plus difficile de trouver un logement pour quelqu'un qui a un handicap. Et sinon, il faut vraiment considérer toujours la situation de la personne. Donc souvent, il y a trois cas qu'on connaisse. Le premier, c'est quelqu'un qui a un accident de la route, qui est avec la SAC. Quelqu'un qui fait un accident au travail sur la CCT. Puis toute la catégorie qui est haute, qu'on dit, que des handicaps de naissance, par exemple, ou des enfants lourdement handicapés, c'est le programme PAD. Fait que c'est à prendre en considération parce que c'est le côté financier si on peut avoir des subventions pour pouvoir faire les adaptations de notre domicile. Puis dépendamment de cette subvention qu'on peut obtenir, mais ça va faire une différence sur c'est quoi les adaptations, c'est quoi les qu'est-ce qui va s'offrir à nous en termes de si on va louer, si on va acheter, les adaptations. Fait que c'est vraiment les accompagner à travers tout ça.
Oui, on a ici Claudine Desrochers avec nous en studio. Elle a une question pour vous.
Bonjour à toi. C'est super intéressant. Bonjour. J'ai une question pour toi. Quand tu parles de logement, là, les propriétaires ont peur que par la suite, ils ne soient pas capables de relouer. Si on parle d'un logement là, qui est sur un niveau, c'est quoi les adaptations? Ouais. C'est-tu la largeur des portes, surtout au niveau de la cuisine entre l'îlot, le comptoir, pour que le fauteuil roulant puisse circuler? C'est-tu plus ça?
Ça peut être des comptoirs plus bas aussi. Hein?
Je te dirais, c'est sûr que ça dépend toujours de la personne, de l'handicap, les limitations, etc. Mais en général, en recherche de logement, pour tout ce qui est immeuble à logement, il y a trois choses que je regarde principalement. La première, c'est comment tu accèdes au bâtiment. Fait que est-ce qu'il y a une entrée principale? Est-ce qu'il y a une dénivelée pour se rendre est-ce qu'il y a des marches? Est-ce que tu peux avoir un accès via le garage? Est-ce qu'il y a un garage intérieur? Parce que c'est très important pour quelqu'un qui a un handicap, s'il y a une voiture, si ton seul stationnement, c'est dans les rues de Montréal, mais s'il y a une tempête de neige, c'est des choses à prendre en considération. Fait que comment tu accèdes à ton bâtiment? La deuxième chose, c'est souvent les trois pièces principales. Donc, la cuisine, la salle de bain, puis la chambre à coucher principale. Faut toujours qu'on ait un rayon de 59 pouces, de rotation, par rapport à tout ce qui est entre les murs, les électroménagers, les comptoirs, etc. C'est la deuxième chose qu'on regarde tout le temps. La troisième chose, ça a l'air banal, mais c'est ce qu'on a de l'espace sur lequel travailler. Parce que plus qu'on a de l'espace, plus c'est facile par la suite, exemple, avec les gros thérapeutes, de faire les recommandations, d'être créatif pour trouver des alternatives pour la personne. Puis après ça, mais c'est toujours justement est-ce qu'il est assuré, cette personne-là? C'est quoi les subventions derrière? Y a-t-il un budget? c'est à partir de là qu'on peut justement analyser le truc-là.
Parce que ça peut coûter plus de 50 000 $ facilement, hein, faire des adaptations à une maison. Ça, faut
ben, juste pour vous dire, dernièrement, on a eu un client dans le sud-ouest de Montréal. C'était une adaptation pour son enfant qui était lourdement handicapé. Puis ça a coûté. Ben, les soumissions qu'on a reçues, c'était au-dessus de 400 000 $.
Oh mon Dieu!
Ça prenait plusieurs choses. C'est sûr que je dirais en général, c'est en bas de 100 000. Mais ça peut arriver que ça peut être vraiment ça, là. Vraiment, vraiment cher comme
et
ça.
Et puis, pour avoir les subventions, là, est-ce que c'est compliqué? Puis là, ça prend quasiment un doctorat pour se comprendre dans les dans les demandes puis les papiers à remplir, etc.?
Bien, je dirais que ça prend pas un doctorat, mais ça prend vraiment un suivi accru. Parce que premièrement, souvent, les assureurs, ils vont pas courir après toi, premièrement. Il y a beaucoup, beaucoup de démarches à faire derrière, que ce soit avec la SAC, la SSST ou le PAD. C'est juste que c'est important que tu sois bien informé. Puis justement, c'est la chose qu'on rencontre souvent, surtout des personnes qui viennent d'avoir un accident comme moi, j'ai eu là, 11 ans. Puis quand t'as dans ton premier projet d'adaptation de domicile, de tout comprendre comment ça fonctionne, les procédures, comment faire les vérifications auprès de la municipalité, si les adaptations vont être, on va pouvoir les faire sur la propriété, exemple, qu'on voit.
Ah, c'est vrai, ça prend des permis et tout. Mais qui peut les aider? Y en a-t-il un organisme qui peut les aider, justement?
Ben toi, tu fais ça, Maxime.
C'est le travail de Maxime. Et voilà.
C'est un peu ça, nous, qu'on fait.
Donc, tu fais les rénovations plus ça?
Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que peu importe la demande du client. Si, exemple, c'est pour l'adaptation de domicile, ben, si on regarde son profil, donc fax, SSC ou autre, fait qu'on va faire la démarche, justement, auprès des municipalités pour voir... d'obtenir les permis en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin de faire sur la propriété. Justement, la paperasse autour des subventions soit complétée. Fait qu'on accompagne un client pour faire adéquatement remplir ces formulaires-là. On communique dans certains cas avec les agents en charge du dossier, donc SAC, PAD, CSSC. Fait qu'on va négocier avec eux dans le cas où que les devis qui sont envoyés, qui sont recommandés par l'ergothérapeute, ne sont pas nécessairement logiques par rapport aux besoins du client parce que ça arrive souvent parce que c'est toujours le moins cher possible. Fait que des fois, c'est pas une meilleure recommandation. Plus s'il y a un élévateur qui fait partie du projet, ben c'est nous qui va contacter les Savaria, les Atlas, toutes les compagnies, puis on fait les démarches auprès de ces entreprises-là aussi. Puis je dirais pour les projets d'adaptation de domicile, c'est vraiment ça. On va regarder les soumissions, on va aller chercher les entrepreneurs, on va regarder les soumissions qu'on reçoit avec le client, on essaie de l'éclairer de faire le meilleur choix possible. Par la suite, on s'assure que durant les travaux, que l'entrepreneur suit les normes d'accessibilité, évidemment par rapport toujours aux adaptations, plus précisément pour s'assurer que ça va être correct pour la personne par la suite. Puis ensuite de ça, une fois que les travaux sont terminés, ben on va confirmer. Puis voilà, je dirais pour les adaptations de domicile, ça ressemble à ça. Puis pour l'achat ou vente, ben, c'est vraiment, on a une petite équipe aussi de courtier immobilier, dans le fond, qui est habitué à ce genre de clientèle-là, donc ils savent quoi regarder. C'est souvent, évidemment, des condos ou des pleins-pieds qu'on va faire parce que ça minimise les coûts d'adaptation. Puis c'est souvent les assureurs vont se rediriger vers ces propriétés-là. Ouais. Donc, il y a aussi le service de courtage immobilier. Puis sinon, on a une plateforme web qu'on est en train de développer, un genre de centriste du proprio, mais seulement avec des propriétés qui ont un minimum d'accessibilité. Ouais. C'est développer une plateforme. Fait que quelqu'un qui cherche un logement ou une propriété, mais sur cette plateforme-là, il va tout savoir ce qui est disponible dans le temps réel.
Mais Maxime, c'est énorme là, tout ce que tu dis, et puis c'est vraiment des démarches incroyables. Mais en fait, les gouvernements, je veux dire, au niveau de l'accessibilité universelle, il n'y a pas des normes là maintenant de construction pour permettre déjà de construire avec l'accessibilité universelle. Ça peut déjà quand même faire le travail en bonne partie. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, petit détail, avoir des interrupteurs tous placés un peu plus bas? Qu'est-ce que ça change quand on a qu'on soit en fauteuil roulant ou enfin qu'on soit en fait qu'on n'ait pas de handicap, que les interrupteurs soient plus bas? Tu sais, ça pourrait rendre service en même temps à tout le monde. Tu sais, c'est toutes sortes de choses qu'on peut penser en amont. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une évolution de ce côté-là?
Bien sûr qu'au Québec, on est quand même en retard par rapport aux nos voisins aux États-Unis, où que déjà en termes de quand il y a des constructions nouvelles, il y a plus de réglementation par rapport à l'accessibilité. Nous ici, c'est sûr que depuis, je pense que 2019, juste dans le tour à logement qui dépasse, je me rappelle plus, je pense que c'est 10 logements, ils sont obligés de le rendre accessible, dans le fond, à la propriété, dans le fond, avec une rampe d'accès ou un ascenseur, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de projets. Il n'y a aucune obligation, dans le fond, par rapport à ce que, comme tu disais tantôt, arrêter les interrupteurs, les largeurs de porte qui sont accessibles, c'est 34 pouces et plus, par exemple. Il n'y a rien qui force les constructeurs à suivre ça.
Les entrepreneurs, exact, oui.
Oui, mais il y a des entrepreneurs de plus en plus que, mettons, ils vont faire certains, mettons, un pourcentage des, je sais pas, exemple, ils veulent construire un 25 logements. Mais exemple, tout ça au premier étage, ils vont les rendre accessibles pour, mettons, aller rechercher une clientèle, justement, de façon plus réduite. Mais je te dirais qu'il n'y a pas d'obligation encore. Il y a des choses qui s'améliorent, je trouve, mais on est quand même loin. Fait que c'est un peu aussi ça que l'entreprise avait fait, on veut concentrer un peu les gouvernements, puis qu'il y a un peu de changement. Parce que l'ergonomie, c'est pas pour quelqu'un en fauteuil roulant.
Non, ça touche tout le monde, c'est ça. J'allais te parler de ça. C'est que
la population vieillissante
exact,
aussi.
Pour les personnes âgées. Tu sais, les gens âgés recherchent maintenant beaucoup de plein-pied, des maisons plein-pied, justement à cause du fait qu'ils vieillissent puis que c'est plus difficile, évidemment, les escaliers et tout. Mais c'est ça, c'est que ça peut servir à tout le monde. Alors, c'est vraiment une expertise à développer.
Oui.
Exactement. Mais tu sais, je vois quand même depuis que je me pense sur ce projet-là, ça fait environ 3-4 ans qu'il y a vraiment une évolution. Ça s'améliore. Tu sais, aussi, je participe à des décrets justement d'urbanisme par rapport à l'accessibilité universelle. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration, surtout dans le désir au moins de changement.
Ouais.
Mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Là.
Alors, tu desserres plusieurs territoires. Là, et puis, tu as aussi tout ton côté. Là, tu as construit toi-même un chalet. Tu es en train de construire, je pense, ton chalet adapté aussi. Alors, évidemment.
Ouais. Parce que dans le domaine des chalets locatifs, on pense à tout ce qui est Airbnb et tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés. Alors, toi, c'est ce que tu as créé avec tes chalets. La compagnie s'appelle comment, donc? Chalet pour tous?
Chalet pour tous, oui.
OK. Donc...
En 2020, en fait, ça a commencé. Mais je dirais qu'il y a même encore de ce côté-là, il y a quand même une évolution parce que quand que j'ai fait mon chalet en 2020, le premier, si je ne me trompe pas, il y avait les chalets U qui est dans le Laurentides, les chalets universels qu'il y avait. Puis il y en avait, je pense, deux autres au lac Saint-Jean, puis c'était tout. Mais depuis 2020, ça fait qu'en 4 ans... Il y a vraiment une augmentation qu'il y a eu, puis j'en ai vu quand même plusieurs. Tu peux aller voir sur le site qui roule.
Oui, parce que vous êtes recommandé par qui roule, justement.
Non, exactement. Il y en a de plus en plus, en tout cas, des chalets qui ont au moins... Tu peux accéder à la propriété. Ça ne veut pas dire que tous les étages sont accessibles, mais au moins, je trouve qu'il y a quand même il y a une augmentation de l'offre de ce côté-là aussi.
C'est ça, parce que bon, ton chalet, c'est le seul et unique chalet perché en montagne adapté aux personnes à mobilité réduite quand même au Québec, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Et puis, j'imagine que tu as quand même une clientèle qui a de grands besoins. Alors, c'est vraiment d'autant plus important ce que tu fais pour tes clients. Alors, écoute, merci, Maxime, d'être venu nous en parler.
Oui, puis merci. Merci pour ce que tu fais aussi pour aider les gens à se sentir mieux, plus confortables, puis à se trouver un endroit où ils peuvent être heureux avec leur handicap. Là, c'est vraiment fantastique ce que tu offres comme service.
Oui, on essaie de toujours améliorer le service, c'est ça, puis en espérant qu'on peut faire une certaine différence dans le futur. Là.
C'est sûr que t'en fais une.
Je pense que les besoins avec la population qui vieillit, les besoins vont être grandissants, assurément. Bon, merci.
Bravo, Maxime.
De beaux projets encore pour toi à venir.
Un gros merci.
Merci.
Bonjour, Max. Bye. Au revoir. Bye. Alors, oui, quel bel exemple, n'est-ce pas, Claudine, ce jeune homme-là, finalement, qui a fait de son handicap une force, finalement.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que quand ça lui est arrivé, cet accident-là, il ne devait pas penser se voir un jour, quelques années plus tard, chef d'entreprise, consultant, aider les autres.
Exact.
Tu sais, il a pu transformer quelque chose de dramatique en quelque chose d'extrêmement positif.
Tout à fait. Il a vu des opportunités, finalement. C'est comme ça, des fois, qu'il faut aborder la vie.
La résilience, beaucoup de résilience. Oui. Et franchement, c'est un exemple pour plusieurs.
Tout à fait.
Absolument.
Et puis, on parlait de logement, de maison, mais en fait, toi, t'es presque... En fait, est-ce que... T'es dans le déménagement, on va le dire.
J'ai eu plusieurs maisons, j'en ai construit, j'ai déménagé, va d'un bord, va de l'autre. J'ai la bougeotte. Et là, j'ai déjà habité dans le Vieux-Montréal, je suis retournée sur la Rive-Sud. En fait, je viens de la région de la Naudière, mais la Rive-Sud de Montréal, c'est devenu comme... J'ai fait mes racines, là,
je vous
dirais, parce que ma fille a fait son primaire, son secondaire. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et le Vieux-Montréal aussi. Donc, quand je me suis séparée avec mon conjoint il y a quelques années, donc avec ma fille, on est allé vivre en condo dans le Vieux-Montréal. Elle, jeune adulte, a trouvé ça vraiment cool. Et puis, je me suis plus aussi parce qu'on avait trois petits toutous à l'époque. Donc, aller marcher dans le Vieux-Port, c'est donc le fun. Mais là, ma fille voulait sa voiture. Alors là, dans le Vieux-Montréal, ça coûte quand
moins
même...
évident pour le stationnement,
c'est le stationnement, sûr. Ça coûte cher, le stationnement intérieur et tout. Fait que là, j'ai fait, on retourne sur la Rive-Sud. Je me suis trouvé un bel endroit. Achète la voiture. Et là, finalement, mon conjoint et moi, on est revenus ensemble. Ah ouais, on redéménage.
Ah oui, ça, c'est une belle histoire quand même.
C'est beau, votre histoire.
Vous êtes séparés, vous êtes revenus par la
suite. C'est ça, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée.
Vous avez été séparés combien de temps?
À peu près 3 ans.
À peu près trois ans.
On a travaillé sur individuellement, on travaille toujours notre couple. Et puis là, on a décidé, on se lance, on réhabite ensemble. Et là, on va aménager dans le Vieux-Montréal début septembre.
Fait que là, t'es dans le déménagement.
Je suis dans l'épuration.
OK.
Et puis là, ça va être les boîtes bientôt, là.
Toi, t'as une passion aussi pour les animaux. Alors, ça veut dire que vous devez aussi, les animaux vont faire partie de
votre vie. Oui, là, on a perdu notre petit Charlot.
Charlot est décédé.
Oui, Charlot nous a quittés. Fait que là, on a Rosie et Juliette qui sont avec nous. Mais là, ça, c'est une autre... là, on rencontre une gardienne la semaine prochaine.
Parce qu'on en voit souvent dans le Vieux-Montréal, les gens, un peu partout. De toute façon, les gens qui promènent toutou, c'est ça pour garder...
On la rencontre, là, d'accord. C'est quelque chose. Parce que là, présentement, sur la Rive-Sud, j'ai 2-3 voisines qui m'aident, qui font du télétravail, tout ça. Mais là, quand tu changes de lieu, il faut que tu trouves quelqu'un de confiance. Ce n'est pas un chat, chien.
On n'a pas envie de les laisser toute la journée, tout seul, à la maison. Là.
Exactement.
On veut qu'ils sortent, qu'ils se promènent.
Tout à fait. Fait qu'il y a un site qui s'appelle Paw Shake.
Ah,
donc
P-A-W.
C'est ça?
Oui.
Shake. Et on peut donc rencontrer des gens qui sont disponibles pour, moyennant évidemment un certain tarif, mais qui peuvent venir sortir ton chien ou le garder.
C'est ça, promener, puis on les voit passer avec plusieurs chiens
à la fois. On va rencontrer peut-être notre futur gardien.
D'accord. Puis l'autre chose aussi, j'ai trouvé très émouvant ton histoire avec vous avez eu un cheval à un moment donné.
Oui.
Ça fait quand même quelques années. Oui. Ta fille se passionnait pour l'équitation.
Tout à fait.
Et un jour, vous avez eu... d'abord, elle a commencé par la selle anglaise.
Oui.
Et elle est passée à autre chose après.
Selle western.
Il y a eu un cheval que vous avez adopté finalement.
Oui.
Et puis qui a fait partie de votre vie. Et vous avez dû vous en départir à un moment donné pour... parce que la vie étant la vie, vous aviez... plus le temps de vous en occuper. Et puis, la vie change. Mais après ça,
raconte-nous cette belle histoire. Il s'était blessé.
Ouais.
Alors, et ma fille faisait de la compétition. Donc, un cheval qui est blessé, puis il y avait eu deux blessures. Il y avait une faiblesse au niveau d'une patte. Et ma fille, donc, est passionnée par la compétition. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, on va le remettre en forme et tout ça, puis on va trouver... une famille pour la vie. Parce que on peut pas se départir d'un cheval. En fait, on peut, mais quand tu aimes ton animal, tu ne veux pas t'en départir comme ça. Donc, moi qui est très, très maternelle, alors j'avais trouvé quelqu'un qui devait. Qui connaissait les gens dans le domaine et qui devait me trouver une bonne famille. Finalement, donc on l'a vendu, j'étais certaine qu'il était à la bonne place et tout ça. Et je communiquais avec cette personne-là, tu sais, pour jaser un petit peu avec elle. Et puis finalement, plus de nouvelles. Cette personne-là ne me répond plus, tout ça. Fait que là, je me dis, bon, ben, peut-être qu'elle me trouve fatigante, tu sais. J'écrivais pas tous les jours, mais mettons... une fois par semaine, c'est pour juste avoir des petites nouvelles.
Elle s'est dit, moi, j'ai adopté le cheval, pas la
Claudine.
Pas Claudine, c'est ça.
C'est ça que je me suis dit, bon, OK, Claudine, calme-toi. Mais finalement, on a appris que notre cheval a été vendu par ces gens-là quelques semaines plus tard. Et finalement, il aurait été racheté à 3 reprises pendant l'été. Et là, ma fille, à minuit, elle rentre dans ma chambre en pleurant, en criant. Je suis là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle était sur Facebook et il y a une jeune adolescente qui l'avait acheté pour quelques centaines de dollars. Elle l'avait vu dans un champ, trouvait qu'il faisait pitié parce qu'il était blessé.
Oh.
Elle l'a acheté à la cachette de ses parents. Ses parents ne le savaient pas. Et avec une de ses amies, il l'avait amené dans une ferme. Il était dans un enclos à vaches à manger du foin qui n'était pas du tout destiné aux chevaux. L'enfer. Alors là, le cheval est mal en point, il est amaigri, il est blessé. Ma fille pleure sa vie, je pleure ma vie. On réussit à convaincre la jeune fille. Finalement, je rachète le cheval au même prix que je l'ai vendu.
Quelle histoire!
J'ai payé à peu près 800$ pour de transport pour le faire revenir. Et là, on l'a soigné, on l'a réengraissé, tout ça. Et là, évidemment, il ne pouvait pas plus faire de compétition. Donc, j'ai dépensé beaucoup de sous pour le remettre sur pied. Et grâce au refuge Galahad. Donc, Galahad, ça a été créé par Chami N.J. Cadorette, qui travaille pour la SPCA. Et elle a eu cette idée-là, c'est-à-dire d'accréditer différentes écuries à travers le Québec selon des critères précis d'hygiène, de confort pour le cheval. Et là, on a trouvé donc une dame qui était accréditée par Galahad. Et je vous jure que je l'ai rencontrée plusieurs fois, puis je suis allée voir sa place, puis tatata.
Pour être certaine.
Puis j'ai quasiment fait jurer, là, que jamais que ça s'en départirait.
Pour que ça ne se reproduise mais plus.
Une femme extraordinaire, et donc le cheval est là présentement.
Ah.
Mais ça pour dire que c'est une de mes passions, puis j'aimerais ça d'ailleurs faire un documentaire sur ce genre de... Parce que on pense beaucoup aux chiens, aux chats.
Oui, la maltraitance.
La maltraitance aux petits animaux de compagnie, mais les chevaux...
C'est qu'il s'est retrouvé dans une ferme où il était en présence, je pense, de chevaux dominants. Et puis, je pense
en plus, c'est ça. C'est où il a été blessé quand il a été revendu. À ce moment-là, il était dans un champ. Il y avait des chevaux qui le battaient, qui l'empêchaient d'avoir accès à la nourriture. Donc, il était blessé. Oh, il faisait tellement pitié. Ça n'a pas de bon sens.
J'ai une ancienne collègue, Anne-Marie Séguin, qui était recherchiste, elle a eu un cancer, récidive. Hein? Et puis, elle a décidé d'arrêter la chimiothérapie. Et pour traiter son cancer, entre guillemets, elle s'est acheté un ranch. Puis elle disait qu'elle faisait de la chevaux-thérapie. Elle disait qu'elle faisait... Elle n'a pas guéri parce qu'elle savait qu'elle était condamnée. Là.
Oui,
elle savait,
okay,
mais
okay.
Les dernières années de sa vie, elle a décidé, je vais faire de la chevaux-thérapie. Elle était tellement heureuse.
Je comprends, je suis convaincue que celle-là...
Oui, oui, oui.
Les chevaux ont une âme.
Oui. Les filles, vous avez un livre en commun.
Oh,
je pense que tu as apporté un livre. Vous avez ça en commun.
Oui.
Un livre que, justement, Nathalie...
Oui, moi, je l'ai lu, lui.
Sur sa table de chevet.
Vous me demandiez d'apporter ce que je lis présentement.
Ouais.
Ben, La vie après la vie du docteur Raymond Moody, qui est à peu près le premier livre qui est sorti sur les expériences de mort imminente. C'est pas récent, ce livre-là. Ça date de quand même plusieurs années. Et depuis, heureusement, il y a beaucoup maintenant plus d'études, hein, plus sérieuses là, qui se font là, un peu, surtout en Europe.
Oui, bien en fait, il y a beaucoup d'études en Europe, beaucoup d'études qui ont été faites en anglais. En fait, c'est surtout les Anglais qui font des études, puis il y a un docteur qui s'appelle Christophe Fauré qui rapporte ses expériences de mort imminente-là. Lui, il est traduit en français, si tu veux. Puis ce que docteur Moody dit, c'est que avant, on disait que c'était des hurluberlus, les gens qui parlaient de la vie après la mort, les expériences de mort imminente. Donc,
oui, que
mourir,
c'était des hallucinations.
Oui, c'est le cerveau qui créait ça.
Exact.
Alors que dans les 50 dernières années, la médecine a tellement évolué qu'ils ont tellement ressuscité de gens que ces gens-là reviennent avec sensiblement même discours.
Ont chacun leur histoire.
Ouais, alors Christophe Fauré, ce qu'il dit, c'est que ce n'est plus une question de religion, c'est maintenant une question de science.
Ah oui.
Les expériences de la vie après la mort.
Ah, puis là, on pourrait en parler longtemps. Ben, il reste peu de temps.
Non, c'est ça. On ne pourra pas, malheureusement, on pourra pas.
Mais c'est fascinant et ça donne vraiment beaucoup de confiance de vivre encore plus sa vie puis de ne pas avoir peur de la mort.
Exactement. Moi, comme plusieurs le savent, mon conjoint est décédé et c'est ce qui m'a aidé à passer au travers. De lire sur les expériences de mort imminente puis d'aller sur YouTube, écouter des gens qui racontent leurs histoires, c'est fascinant.
Ah oui, absolument. Oui, je suis d'accord avec toi.
Alors, c'est tout. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ah. Oui, bien sûr, Claudine, ça a été un bonheur. Et on va te revoir sûrement dans plein de... Je sais que tu as des projets plein la tête.
J'imagine. Ouais, oui.
Tu le sais pas encore, mais... mais t'en as. Alors, Nathalie, ça a été un plaisir. Encore une belle semaine. Et puis, ben, bons Jeux olympiques à tout le monde.
Oui,
hein, parce que là, c'est la cérémonie d'ouverture.
Ah, c'est excitant. Là.
Très bientôt. Ben, je pense que c'est peut-être même commencé, enfin. Et puis, ben, là-bas. Alors, écoutez, on va s'en reparler. Et puis, on va repartir la semaine prochaine pour une autre belle semaine de M l'été. Oui. Entre midi et 13h, tous les jours de la semaine.
Merci Claudine. Alors,
merci. Au revoir.
Bel été à tout le monde.
Un bon été à tout le monde.